Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Christophe Paco. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15. Avec à la une ce soir, cette puissance de feu d'une rare intensité sur la Gironde et la région de Landiras, à nouveau balayée par les flammes cet été. 6000 personnes évacuées, 6000 hectares déjà brûlés et un combat de tous les instants sur l'une des 5 régions concernées par ces grands départs de feu sur notre territoire ces dernières heures. Point complet dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux, des grands témoins dans la première partie de votre journal partout en France, avec en fil rouge bien sûr des nouvelles du ciel, loin d'être positives malheureusement, sur bien des secteurs touchés. Bonsoir à vous Anthony Kazmarek.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, vous savez qu'on surveille la fameuse règle des 3-30 qui, lorsqu'ils sont atteints, maximisent le risque d'incendie, c'est-à-dire des températures supérieures à 30 degrés, des vents soufflant à plus de 30 km/h et un taux d'humidité dans l'air inférieur à 30%. Et pour la Gironde et les Landes, on attend demain des températures entre 40 et 41 degrés, un taux d'humidité inférieur à 15% et encore du vent, mais qui devrait toutefois rester en dessous des 30 km/h, donc c'est le faible espoir ce soir. Et c'est dans le Maine-et-Loire que la situation sera la plus compliquée demain en termes de météo, avec 34 degrés, une humidité à 15% et surtout des rafales de vent de nord-est, un vent sec à 40 km/h. En revanche, pour l'Aveyron et la Drôme, mince espoir aussi, puisque le vent viendra du sud, du sud-est, et donc il sera un peu plus chargé en humidité.
Merci pour ces premières précisions. Vous restez avec nous, évidemment, jusqu'à la fin d'RTL Soir, 19h15, Anthony Kazmarek. Dans le reste de l'actualité, un homme abattu ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par un tir de policier après avoir brandi un couteau. On fera un point complet tout à l'heure sur l'enquête. 50 personnes, 50 migrants portés, disparus dans le naufrage de leur bateau. C'est au large de l'île grecque de Karpathos en mer Égée. Les gardes-côtes recherchent toujours les disparus, au large cette fois des côtes turques voisines. 7 jours, 7 reportages, c'est l'une de nos grandes séries d'été. Léonard Cassette est en Bretagne, il sera avec nous à 18h25. On parlera budget vacances restreint ce soir pour lui. Notre deuxième invité d'RTL Soir, ce sera Lisa Kamen, maîtresse d'école de son état, qui avant la rentrée des classes, le 1er septembre, va s'attarder ce soir avec nous sur l'intérêt, l'utilité. Vous savez, des fameux cahiers de vacances, c'est pas inintéressant cette année, puisque ces supports de révision ont une tendance franchement environnementale. C'est vraiment de saison et d'actualité. 18h35, rendez-vous avec la maîtresse d'école. Sans oublier, laissez-vous tenter de l'été et votre plateau télé, ce sera juste avant, 19h juste avant, une nouvelle météo, bien sûr, ô combien importante aujourd'hui, plus que jamais. Vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
Le journal Christophe Paco.
5 grands feux déclarés en pleine période sécheresse sur la France aujourd'hui. Une dizaine de sites également sous surveillance. Dans RTL Soir, nous avons donc décidé de faire un point complet, région par région concernée, le Maine-et-Loire, l'Aveyron, la Drôme, l'Isère encore, et tout d'abord la Gironde et les Landes environnantes. On va prendre sans plus tarder la direction de Bellin-Bélier, où nous attend notre envoyé spécial Philippe de Maria pour faire le point. Bonsoir à vous Philippe.
Bonsoir.
Alors 6000 hectares partis en fumée, 6000 personnes évacuées, mais là ce soir vous êtes au plus près des flammes Philippe.
Oui, j'étais accompagné il y a quelques minutes d'un officier du SDIS-33. L'approche du front de l'incendie est lente. Il ne faut pas gêner les sapeurs au travail sur cette piste étroite. Le panache de fumée de l'incendie couvre tout le ciel au-dessus de nos têtes. Les flammes sont à 200 mètres. J'arrive à sentir l'intensité de leur chaleur. Le lieutenant-colonel Mandous.
Là, elle doit faire environ 10-15 mètres.
Le feu est parti en cime. Et donc, si vous voulez, voilà, là, on est vraiment dans des conditions extrêmes. Là, on est en fait dans une parcelle récemment plantée, hein. Il y a 5 à 10 ans, en fait. C'est des pins de 5 à 10 ans. Et donc, en fait, vous voyez, ce sont des pins qui sont encore très denses, qui n'ont pas été ce qu'on appelle dépressés. Et donc, en fait, là, il y a un potentiel calorifique qui est très important, ce qui fait qu'en fait, le feu se propage très rapidement dans ce type de parcelle. Vous voyez toutes les escarbilles. En fait, ce qui fait en général les sauts de feu, ce sont ces petites escarbilles. Là, pour l'instant, on voit retomber des escarbilles qui sont consumées. Mais en réalité, il y a aussi des escarbilles. On en voit, si vous voulez, qui sortent du feu, qui sont enflammées et qui peuvent, en fait, faire une propagation à plusieurs centaines de mètres.
Des canadaires passent au-dessus de nous. J'en compte 5 en file indienne. 2 avions d'H larguent leurs 10 tonnes de produits retardants pour freiner la progression du feu. Malgré le travail remarquable des pilotes et des sapeurs au sol, ça n'a pas encore suffi à stopper l'incendie.
Philippe de Maria, envoyé spécial donc à Bellin-Bélier pour vous ce soir dans RTL Soir.
Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir.
16 maisons brûlées, 6000 personnes évacuées, plus de 6000 hectares déjà partis en fumée, avec pas moins de 40 départs donc recensés. En gros, comme évoqué ce matin pour se faire une image, c'est 10 terrains de football par minute qui sont entièrement balayés par les flammes en ce moment. À Austins, nous attend Jean-Luc Glaise, qui est président du département de la Gironde. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On se souvient encore de ces méga-feux de cet été, du mois de juillet, bien sûr, ces images de la dune du Pilat encerclée par les flammes, ça fait beaucoup. Comment est-ce possible de revoir encore le feu d'une telle intensité juste devant chez vous ?
Alors c'est possible tout simplement parce que les conditions qui avaient présidé à l'amorce du feu de l'Andiras ou de la Teste sont les mêmes aujourd'hui, voire pire, c'est-à-dire que nous avons toujours des températures caniculaires, toujours un taux d'humidité extrêmement bas, mais surtout la sécheresse s'est accentuée au niveau de la végétation et les vents continuent à être très présents et tournants. Donc toutes ces conditions favorisent la propagation des feux. Et en plus, nous sommes dans le massif des Landes de Gascogne avec de la tourbe et du lignite qui sont deux matériaux qui sont des matériaux très combustibles en souterrain et qui donc favorisent la reprise des feux quelque part à un moment imprévu. Et donc nous avons vu le feu repartir sur des zones vertes ce matin, cette nuit.
Ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de tourbe, hein, qu'on commence à comprendre bien sûr, pour essayer d'aller plus loin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y a quelques instants dans l'Aveyron, là aussi on y reviendra tout à l'heure, où ça a beaucoup brûlé. Il était sur place bien sûr auprès des pompiers et de tous les états-majors. Il a mis l'accent sur le départ volontaire. Vous aussi, on annonce quand même plus de 40 départs de feu volontaires. On a du mal à le comprendre, ça ne peut pas être accidentel. Ouais.
Alors je pense que la reprise qui s'est produite hier soir et qui a duré pendant toute la nuit et qui a brûlé ces 6000 hectares me semble être une reprise plutôt de nature naturelle, puisqu'elle était en proximité d'un espace incendié et qu'elle s'est propagée sur un espace plutôt vert et intact. En revanche, il y a effectivement bon nombre de départs de feu qui sont souvent d'ailleurs allumés à deux endroits différents de façon simultanée, qui témoignent visiblement qu'il s'agit d'incendies criminels. C'est notamment le cas dans le Médoc, c'est le cas dans le Nord Gironde, c'était le cas aussi, je crois, dans le Nord des Landes. Donc là, effectivement, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont inspirées par la présence de ces feux qui sont majeurs et historiques et qui ont envie d'en faire de même de leur côté, ce qui est absolument incompréhensible évidemment pour nous.
Bien sûr, on est dans l'enfer des feux il y a quelques instants, vous l'avez entendu avec Philippe de Maria au plus près avec les pompiers aujourd'hui. Comment protéger au mieux les vies? On le sait, c'est en évacuant les personnes, il y a également les animaux, c'est compliqué, il y a même des pompiers qui sont malheureusement blessés.
Oui, alors évacuer préventivement, donc ça c'est la doctrine qui a prévalu depuis le début de ces incendies en lien avec l'État, avec les gendarmes et avec nous-mêmes au niveau du SDIS. C'est plutôt une méthode qui porte ses fruits puisqu'il n'y a pas eu pour l'instant de blessés dans les personnes civiles. Il y a eu effectivement tout à l'heure un blessé assez grave au niveau des pompiers qui a été brûlé, quelques blessés plus légers. Mais en tout cas, ces évacuations préventives sont absolument essentielles pour faire en sorte que les personnes puissent être préservées. C'est évidemment toujours difficile à vivre que d'être évacué. Mais c'est absolument impératif pour qu'ils ne soient pas ensuite blessés.
On va y revenir dans quelques instants avec des témoins, des gens qui ont été évacués, bien sûr. On l'a entendu dans le reportage de Philippe de Maria également sur place pour RTL. C'est le bruit des canadaires. Il y en a beaucoup, il y en a quoi, 6, 7, 8, c'est ça, il disait tout à l'heure, nous disait notre envoyé spécial.
Alors nous en avions 6, je n'ai pas refait le point là à cet instant. Il y avait également des dash qui étaient présents ainsi que des hélicoptères. Donc tous ces moyens nous sont encore promis pour demain. Nous devrions avoir au total 9 moyens aériens présents. C'est absolument impératif parce que nous en avons besoin pour à certains endroits pouvoir avoir des attaques massives sur ces incendies qui sont de très grande intensité.
On n'oublie pas que l'autoroute A63 était fermée à la circulation également pour éviter les touristes. La dernière fois vous aviez écrit Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des nouvelles du président de la République aujourd'hui sur la situation chez vous, ce qu'il faut faire avec ce nouveau mode de fonctionnement? Puisqu'on ne pensait jamais qu'il y aurait de méga feux d'une telle intensité dans les Landes.
Non, je n'ai pas eu pour l'instant de retour du président de la République. La lettre ouverte adressée par moi-même et le président des Landes lui a été remise en main propre par mes soins. Nous verrons évidemment par la suite. En tout cas, nous avons demandé avec le président des Landes et la présidente du Lot-et-Garonne, à madame la préfète de région, de réunir à l'automne les états généraux du massif des Landes de Gascogne, de manière à ce que nous tirions tous les enseignements sur tous les sujets concernant ce massif pour faire que demain nous puissions préparer d'abord l'été 2023, qui pourrait être peut-être de même nature que celui que nous connaissons actuellement. Et puis surtout préparer l'avenir à plus long terme.
Juste une question très rapide, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir dans RTL Soir, bien sûr. Juste une question qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est quand même la deuxième fois que vous repartez tous au combat. Moralement, comment ça se passe chez vous c'est pas facile dans la tête et physiquement, bien sûr.
Écoutez, nous essayons de tenir bon. Enfin, je pense que les pompiers sont d'abord en première ligne et c'est eux que j'observe et je les trouve extrêmement courageux, extrêmement tenaces pour se battre contre ce feu. Il y a bien évidemment des moments de découragement que nous pouvons avoir les uns et les autres. Mais je crois que la solidarité, le collectif que nous représentons tous ensemble nous permet de tenir bon et d'essayer d'avancer pour faire en sorte que le plus vite possible nous puissions, si ce n'est éteindre, du moins maîtriser ces feux.
Merci, bon courage à tous ceux qui vous entourent, bien sûr, tous ceux qui souffrent aujourd'hui sur place et qui craignent évidemment pour leur habitation, pour leur vie aussi, pour les animaux, on pense à tout, à ces forêts que l'on apprécie tant également. Merci mille fois Jean-Luc Glaise d'avoir été avec nous dans RTL Soir. Vous êtes président du département de la Gironde. Merci à vous monsieur.
Merci.
RTL Soir.
Et comme bien souvent, la solidarité joue à plein son rôle. Je suis encore sur l'émotion, évidemment, avec Jean-Luc Glaise et le témoignage de Philippe de Maria et ses flammes qui sont tout autour de cette grande région, belle région de Landiras. 6000 personnes évacuées l'année dernière. Nous sommes justement avec Thomas Guino, qui est habitant de Landiras. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous, en tout cas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez créé avec votre épouse un groupe sur Facebook qui relie plusieurs villes, évidemment, de Landiras jusqu'à Austins et alentour. Dès le 13 juillet dernier, c'est un groupe d'entraide et de solidarité. Combien de membres aujourd'hui?
31 500.
Pour, on rappelle que Landiras, c'est 2500 personnes. C'est un site. Comment vous est venue l'idée finalement? C'est d'avoir envie de solidarité, c'est de trouver des endroits pour pouvoir dormir au moins déjà une nuit.
Au départ, c'était surtout une recherche d'informations, puisqu'on était un petit peu dans le flou. On n'avait pas trop d'informations, donc c'est ma femme qui a créé le groupe dans la nuit du mercredi au jeudi, là, le 13. Mmh. Et en quelques heures, on a eu un millier de personnes qui étaient sur le groupe. Et du coup, ça s'est transformé très rapidement en un espace d'entraide. Hein. On a essayé d'entretenir tous les élans de générosité et de bénévolat qui se sont manifestés très rapidement dessus. Quoi.
C'est d'abord un gîte, c'est d'abord un couvert. Quelles sont les premières demandes? Ou c'est tout simplement de vous aider dans un transfert, de partir, je sais pas, aller à l'aéroport de Bordeaux ou ailleurs?
Alors, ça a beaucoup tourné au niveau des dons au départ.
D'accord.
Des dons de nourriture, d'eau, etc. Puis il y a eu les premières évacuations et effectivement, il y a eu des cas qui se sont manifestés avec des gens qui avaient besoin d'être logés ou qui avaient besoin de déplacer des animaux. Voilà, ça a été très, très, très vaste comme les demandes étaient très,
bien sûr,
très larges.
Très larges. J'écoutais ce matin d'ailleurs sur RTL des gens qui spontanément accueillaient des personnes en disant « mais on est comme en vacances, quoi, on va faire les courses ensemble, voilà ça ». Et on reste dans la même région parce que c'est pas facile de trouver des logements en plein été en plus, hein.
Mais les gens reçoivent chez eux essentiellement, donc il n'y a pas de difficulté. Mmh. C'est du fait des vacances. Enfin, les gens qui sont pas là, bien sûr, non, mais les gens reçoivent chez eux ou leur porte
assez facilement.
Sinistrés.
Est-ce qu'on vous propose des choses à l'extérieur? Je sais pas si est-ce qu'on vous demande par exemple d'aller jusqu'à Dunkerque ou à Nice pour passer une petite semaine pour vous remettre de vos émotions qui sont terribles parce que c'est la deuxième fois que ça vous arrive.
Non, il y a des gens, il y a des propositions sur les départements limitrophes. On a eu des choses en Dordogne. C'est que le week-end dernier, il y a un couple qui a pu partir tant que c'était dans le Lot-et-Garonne, passer un week-end effectivement complètement déconnecté de tout ça, pour se reposer et reprendre des forces. Mais il y a des propositions effectivement des départements limitrophes qui proposent leur
service évidemment et leur aide. Thomas Guino, pour conclure peut-être, vous êtes du côté de Landiras, c'est bien ça votre habitation?
Oui, j'habite à Landiras.
La situation chez vous ce soir, est-ce que vous êtes cerné par les flammes? Est-ce que c'est loin? Il y a de la crainte encore et de la peur?
Non, Landiras, on est pour le coup ce soir un petit peu épargné. Hier soir, il y a eu une reprise un petit peu importante là, à proximité, mais rien comparé à ce qui peut se passer à Austins. Hein. Nous, aujourd'hui, on est à une quinzaine de kilomètres du foyer énorme d'Austins. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des redémarrages à proximité. Mmh. Mais bon, en tout cas, on n'est pas inquiet pour nos maisons aujourd'hui.
D'accord.
On est inquiet plutôt pour les gens du secteur,
bien
du
sûr.
Secteur d'Austins.
Deux fois, ça fait beaucoup quand même en seul été, hein, Thomas. C'est sûr que c'est compliqué à gérer, même moralement, hein, on le disait tout à l'heure.
Oui. Mmh. Alors, moi, j'ai eu une seule fois, mais effectivement, les gens qui subissent ça... commence un petit peu à être fatigué et puis c'est difficile.
Merci à vous Thomas Guino. Juste un petit détour par la météo quand même, ça vous concerne dans cette région de Landiras. On le rappelle, la situation ce soir et demain matin, peut-être les premières heures, Anthony Kazmarek.
Alors le ciel sera évidemment dégagé, il aura fait chaud une bonne partie de la nuit, on aura du mal à descendre sous les 18 degrés et puis le problème c'est que demain ça va à nouveau chauffer jusqu'à 40 et 41 degrés avec toujours ce vent qui va cependant un peu faiblir, donc c'est le mince espoir ce soir.
Et on a entendu également que vous le disiez dans les titres tout à l'heure que dans le Maine-et-Loire ça allait être compliqué.
Oui,
également.
Exactement, parce que les vents vont souffler fort aussi demain avec toujours de la chaleur.
On va s'y rendre dans une minute évidemment. Notre envoyé spécial est sur place, Pierre-Baptiste Vanzini, également un grand témoin. Ce sera le contrôleur général du SDIS 49, Jean-Philippe Rivière, qui sera notre invité. Ce sera juste après ça.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Direction donc le Maine-et-Loire, après la Gironde, deuxième des cinq régions très très touchées par ces incendies terribles aujourd'hui entre Angers et Le Mans. On fait les comptes, c'est déjà plus de 1400 hectares qui ont été dévorés par les flammes dans cette région de France. Pierre-Baptiste Vanzine est avec nous. Bonsoir Pierre-Baptiste.
Bonsoir.
Point complet donc avec ces 1400 hectares. Pas d'évacuation chez vous hein, pour l'instant.
Quelques évacuations, mais je peux vous dire que pour arriver dans la petite bourgade cernée par les incendies, il faut traverser plusieurs kilomètres d'une route départementale entourée par les stigmates des flammes. Les sous-bois sont totalement noirs, un noir qui contraste avec le vert des feuilles encore présentes sur des arbres qui ne savent pas encore qu'ils sont déjà morts. Les 600 pompiers arrivent juste à limiter la progression des flammes. 1400 hectares engloutis depuis lundi, vous le disiez, le maire de Baugé en Mauges, Philippe Chalopin, n'en revient toujours pas.
Au début, on pensait que c'était un petit feu sur quelques hectares et très rapidement, on a atteint effectivement 600 hectares. Hier, on a franchi la barre des 1200 et là, aujourd'hui, on est à plus de 1400 hectares. Traînée de poudre. Moi, j'ai assisté à des départs de feu. On ne peut pas s'imaginer la rapidité et la violence. C'est impressionnant, c'est immaîtrisable.
Immaîtrisable.
Heureusement, oui, effectivement, mais heureusement, dans tout ce tableau très sombre, hein, la solidarité s'organise pour venir en aide aux 80 personnes déplacées. Toutes ont pu être accueillies chez l'habitant. Et c'est le cas de Béatrice qui est là aujourd'hui au centre de crise pour donner un coup de main, nourrir les pompiers.
On a été évacués hier après-midi parce qu'on voyait les flammes. Donc on est logés chez des amis à Vieille-Baugé.
Et là, pourtant, vous êtes en train d'aider.
Bah parce que pour l'instant, nous, on n'a pas... Ça va. Notre maison, elle est sauvée pour l'instant. Mais on fait des sandwichs, là, il y a les glaces. On fait pour que les pompiers, ils aient tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils ne perdent pas trop de temps, puis les remercier.
Et oui, on remercie et remercie également les agriculteurs venus de tous les départements alentours avec leurs citernes, leurs tracteurs. Ils se relaient jour et nuit pour tenter de maîtriser ces flammes.
C'est important, mais cette solidarité évidemment et tous ces gens, ces bénévoles qui sont là sur le terrain. Merci mille fois Pierre-Baptiste Vanzini, envoyé spécial aujourd'hui dans le Maine-et-Loire pour RTL. En duplex avec nous, le contrôleur général du 1049, le service départemental des incendies et de secours. C'est Jean-Philippe Rivière qui nous rejoint. Bonsoir à vous monsieur.
Oui, bonsoir monsieur.
On a entendu hein, beaucoup de solidarité, les agriculteurs également, et puis ce qui nous fait toujours peur, c'est cette rapidité à laquelle évoluent ces feux, cette violence aujourd'hui, que ce soit en Gironde comme chez vous dans cette région de France.
Oui, c'est un feu qui a débuté lundi. Je dirais qu'il s'est rapidement propagé donc sur ce massif forestier, la forêt du Puc, à l'est de ce département, qui a parcouru actuellement 1400 hectares. Pour lequel donc on a, déployé à la fois des moyens du département, mais on a été très vite renforcé en fait par des moyens supradépartementaux demandés donc via notre zone de défense et par le centre opérationnel national de COGIC. Et à ce jour en fait nous avons à peu près tout effectif confondu à peu près 600 sapeurs-pompiers qui se sont donc relayés maintenant depuis 3 jours.
Et des gens qui peuvent venir vous aider, ça c'est important hein.
Une opération, vous savez, c'est une agglomération de compétences. La première, ça a été une compétence via le service et l'aide apportée par la gendarmerie nationale, avec la reconnaissance aérienne faite par l'hélicoptère, qui nous a permis globalement d'avoir une vision cartographique de l'événement et d'en suivre régulièrement les contours. Le deuxième élément. Ça a été bien sûr l'apport du volet territorial, par l'intermédiaire de ces évacuations et de la connaissance que possèdent bien sûr les élus, de leurs résidents, leurs administrés, pour nous aider à identifier ce qu'on appelle chez nous les points sensibles, les évacuations, à la fois pour les exploitations agricoles, pour les habitations, pour permettre à la fois de sécuriser les personnes et dans un deuxième temps de sécuriser les biens. Et le troisième élément, c'est notre sectorisation opérationnelle, au fur et à mesure de l'avancée du feu, au travers des différents massifs. Et c'est là également toute la connaissance qu'ont les agriculteurs pour nous aider à la fois à progresser. Et puis cet élan de solidarité qui s'est fait jour en moins de 48 heures. Pour ce ravitaillement en eau, alors non pas pour tellement nos engins, mais surtout pour la protection des lisières et nos massifs que nous ayons à protéger.
Merci beaucoup. La liaison se dégrade, hein, Jean-Philippe Rivière. On va être obligé d'écourter notre entretien, mais on l'a entendu. En plus, il y a une véritable solidarité. Pour vous, c'est important également. C'est une météo particulière avec Anthony Cazemarec, la météo dans cette région entre Angers et Le Mans pour ce soir et demain ?
Oui, bah c'est là-bas que la situation sera sans doute la plus compliquée puisque demain, on y attend encore 34 degrés, un taux d'humidité de 15% et surtout des rafales de vent de nord-est, un vent sec, un vent chaud, un vent continental entre 40 et 50 km/h en rafale. Et d'ailleurs, cette situation critique, on l'aura aussi dans le nord-ouest, entre la Bretagne et la Vendée, tout comme dans le nord-est du pays, notamment vers les plateaux lorrains.
Dans l'Aveyron, l'incendie de Mostuéjouls, toujours non maîtrisé, les flammes se propagent toujours dans ces lieux plutôt escarpés, difficiles d'approche. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur place en début d'après-midi. Il a lancé un appel aux entreprises pour libérer les pompiers volontaires qui sont dans leurs effectifs au quotidien. Là aussi, l'Aveyron, ça se calme un tout petit peu, on a un peu d'espoir ?
Oui, ça va se calmer parce que demain, le vent va tourner au sud-sud-est. C'est un vent un peu plus humide qui vient de Méditerranée. Les températures seront toujours très élevées, mais bon, voilà, l'espoir, c'est que le vent va tourner et va apporter un peu plus d'humidité dans l'air.
Quatrième secteur touché, c'est la Drôme. Feu de forêt, de végétation qui a débuté la semaine dernière, qui est toujours en cours. Le bilan, c'est 286 hectares, très précisément, de brûlés aujourd'hui, tout près de la localité de Romeillé. Il y aura un point presse dans la soirée. Puis à Vorep, en Isère. Alors là, tout semble rentrer dans l'ordre. Le maire Luc Raymond a été tout à l'heure contacté par Mathias Luguin.
À l'heure actuelle et à ce moment, donc la situation est maintenant totalement maîtrisée. L'incendie est éteint quasiment, pas complètement, parce qu'il y a encore des fumerolles ou des petites reprises ponctuelles qui sont traitées par les pompiers, ce qui a motivé le fait que toutes les personnes qui avaient dû quitter leur logement ont été autorisées en fin de matinée à réintégrer leurs habitations. Donc aujourd'hui, c'est les moyens locaux, j'allais dire locaux départementaux, qui restent sur place pour, essentiellement pour tenir le périmètre. Il sera réellement totalement éteint l'incendie quand il commencera à pleuvoir, soit dimanche, soit en début de semaine prochaine, où on annonce un peu de pluie. On n'est jamais complètement tranquille. Enfin, à ce stade, les choses sont très bien maîtrisées. Donc il n'y a pas de raison que l'incendie reparte de façon significative.
Mais voilà, au moins une bonne nouvelle ce soir sur les cinq fronts hein, où les incendies sévissent en ce moment. L'Isère, la Drôme, rapidement, la carte météo.
Oui, ça va aller mieux aussi demain. Il va sans doute y faire encore aussi chaud qu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que là aussi, le vent sera orienté au secteur sud et le taux d'humidité va nettement remonter. Cette nuit, il sera à 60% et demain, il sera au-dessus de 30%. Donc évidemment, bonne nouvelle pour ces deux départements.
Et dans un instant, à 18h22, la suite de votre journal RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
À 18h23, un homme a été abattu ce matin à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par un tir de policier après avoir brandi un couteau. On en sait un peu plus ce soir. Clément Terrard, bonsoir.
Bonsoir, oui. Il s'agit d'un sans domicile fixe à 8h30. Ce matin, l'homme âgé d'une quarantaine d'années perturbe des voyageurs aux abords de la porte 16 du terminal 2F où il est installé quotidiennement. Alors des agents de sécurité lui demandent de partir. Il refuse. C'est à la police aux frontières d'intervenir. Mais l'homme brandit un couteau et avance vers les policiers. Après une sommation, un des agents des forces de l'ordre lui tire dans l'abdomen. L'homme meurt de ses blessures quelques minutes plus tard. Sylvie a assisté à la scène.
Moi, je suis partie comme tout le monde, hein, parce que moi, j'ai eu peur. Vous imaginez, vous êtes avec vos bagages, avec vos enfants. Vous voyez une personne qui n'est pas dans son état normal. Il avait le couteau. Je crois qu'il était prêt à tuer quelqu'un.
Au moment de la palpation, les policiers retrouvent un second couteau caché dans sa veste. Pourtant, l'homme était connu des services, mais pas pour des faits de violence. Cet employé de l'aéroport se rappelle d'un jour où le sans-abri lui a sauvé la mise alors qu'un autre SDF l'agressait.
Ce mec, je l'ai vu plusieurs fois. Ça fait 5 ans, je suis là, 5 ans, il est là. C'est quelqu'un qui m'a sauvé parce qu'il y a un SDF qui voulait me piquer avec un couteau. Et il a parlé. Pourquoi vous voulez le piquer? Il fait son boulot. Et puis le gars, il a baissé le bras. Depuis qu'il a parlé à ma faveur, on s'est salué.
Deux enquêtes sont ouvertes. Une confiée à l'IGPN pour savoir si le policier a agi en état de légitime défense. Et une seconde pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique confiée à la police aux frontières.
Clément Terra, service police-justice d'RTL. La célèbre chanteuse Aya Nakamura et son compagnon ont été placés ce soir en garde à vue pour violence conjugale réciproque. Dans le cadre d'une expérimentation de 2 semaines, 5 officines en Ile-de-France, des pharmacies également en PACA et dans les Hauts-de-France peuvent effectuer désormais des injections contre la variole du singe. Une opération de sauvetage toujours en cours entre les îles grecques de Rhodes et de Karpathos, c'est face aux côtes turques. Une embarcation chargée de 60 à 80 exilés a coulé. Seuls quelques-uns pour l'instant ont été secourus. Les opérations continuent. Les sports, le football à Marseille. L'arrivée d'une star hier soir pour le Chilien Alexis Sanchez, 33 ans, visite médicale aujourd'hui, plus présentation à la presse, Hugo Hamelin.
Exactement, après une courte nuit bercée par les vapeurs de fumigène, la star du football chilien est apparue dans la salle de conférence du stade Vélodrome. C'était à 16h30, polo blanc de l'Olympique de Marseille sur les épaules. Alexis Sanchez a été officiellement présenté par le président du club, Pablo Longoria, bien content d'avoir réussi à faire venir un joueur de ce calibre à Marseille.
Bueno, la afición de ayer muy, muy feliz, la verdad que...
J'étais très content de l'accueil des supporters hier soir. Ça m'a même surpris. Mais on voit qu'ils aiment ce club, qu'ils sont passionnés. J'espère trouver sur le terrain pour leur rendre tout ça. Physiquement, ça va. J'ai continué l'entraînement avec l'Inter. Le ballon me manque, mais je me sens bien.
L'enfant merveilleux, son surnom au Chili, a ensuite été prendre la traditionnelle photo sur la pelouse, maillot floqué du numéro 70, applaudi par quelques dizaines de supporters qui étaient en visite estivale au Vélodrome, un peu là par hasard. Maillot que l'attaquant diabolique a d'ailleurs offert aux aficionados olympiens dans les tribunes. L'histoire d'amour entre Sanchez et Marseille peut maintenant démarrer.
Ouais, on verra ça sur le terrain, bien sûr. Merci Hugo Hamelin. Et puis ce souvenir, cette moustache, ces longs cheveux noirs, ce style inimitable. Le footballeur portugais Fernando Chalana, milieu de terrain girondin des années 80, début des années 80, est décédé aujourd'hui à l'âge de 63 ans. Et puis malgré des mesures hors normes, le beluga extrait de la Seine hier n'a pas survécu lors de son transport en camion réfrigéré vers Ouistreham. Il a dû être euthanasié dans son parcours. 18h26, dans un instant, on va jouer avec les enfants en voiture, le rappel des titres et puis surtout, 7 jours, 7 reportages. On vous amène dans le Morbihan ce soir où nous attend Léonard Cassette.
RTL Soir. RTL. Laurent Marsic.
C'est le moment évidemment, si vous êtes sur le retour de la plage par exemple, ou dans les embouteillages tout simplement partout en France, c'est l'heure d'accueillir Laurent Marsic qui vous propose tous les jours une très belle idée de jeu. Ce soir, allez, c'est mathématique ?
Comme dans le jeu télé, il va falloir faire travailler tes méninges pour un exercice de calcul mental. Nous allons jouer avec les plaques d'immatriculation des voitures, devant et derrière nous. Tu es prêt ? Un joueur choisit un nombre entre 1 et 100.
95.
Ok, les autres joueurs doivent maintenant noter les plaques d'immatriculation des voitures qui nous entourent et avec elles tenter d'atteindre 95. Par exemple, ici, une voiture bleue, plaque d'immatriculation 856 AM17. Puis une autre, 412 BK64. Ça suffit, pas besoin d'en noter 25. On a donc les chiffres 8, 5, 3, 1, 7, 4, 1, 1, 2, 6 et 4. C'est parti.
8 plus 1 égale 9, 7 plus 3 égale 10, 9 multiplié par 10 égale 90. Et j'ajoute le 5, 95.
Bravo, tu peux aussi jouer avec tes parents. Et maintenant, à toi de jouer.
J'ai envie de jouer, moi, ce soir, à chaque fois avec vous. Merci, Laurent Marsic. Chronique à retrouver tout cet été, en tout cas dans le podcast habituel RTL. Albin, Michel, Jeunesse, ça s'appelle « Lis-moi une histoire ».
RTL.
7 jours, 7 reportages.
J'adore cet air frais qui nous vient de Bretagne, du Morbihan. On nous attend Léonard Cassette. Bonsoir à vous, Léonard.
Bonsoir à toutes et à tous.
On était sur l'île de Groix hier soir. Ce matin, je vous ai entendu avec Jérôme Florin. Vous avez quitté votre auberge. Ah ben, oui, il y a du bruit chez vous. Oui, ça va, j'arrive. Mais merci.
Le bateau part pour rejoindre l'Orient.
Ah, ben c'est pour ça. Dépêchez-vous. Vous étiez dans une auberge de jeunesse. J'ai entendu qu'il y avait un petit pari que vous avez passé avec Jérôme Florin dans la matinale. Vous aviez quoi, 20, 25 euros pour passer une vraie belle journée de vacances, Léonard?
Absolument, exactement.
Comment ça s'est passé ?
Écoutez, j'ai voulu la jouer jusqu'au bout. Hein, donc je me suis mis en tête de faire la journée seulement avec un billet de vin. Ah. Du coup, j'ai commencé doucement, un petit café sur le port, avec vue justement sur les bateaux de plaisance cette fois, en attendant que le soleil termine de se lever.
Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si le café était moins cher au comptoir ou pas.
Il est moins cher au comptoir, ouais. Ouais.
Il est à combien ?
Moins cher à emporter.
Moins cher à emporter ?
Ouais, il est 1,10€ à emporter.
Bah, je vais prendre à emporter à ce moment-là.
Mais je vais vous le faire au prix à emporter parce que j'ai plus de gobelets, mais je vais vous le mettre en tasse quand même.
Ah, c'est sympa, merci. Où est-ce que vous me recommandez d'aller comme coin sympa où justement on peut profiter sans forcément dépenser ?
Si tu veux voir de la côte sauvage, tu vas à Penmen. Si tu veux la plage, tu pars sur la droite.
Et petite question, est-ce que je peux vous demander de remplir ma gourde en eau ? Ça m'évitera d'acheter une bouteille. Super, bah merci beaucoup. Et puis merci pour le café du coup.
Et c'est seulement après que ça dégénère, hein, j'ai cramé la caisse, Christophe.
Ah, c'était bien parti pourtant, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Bah pour visiter l'île, me déplacer, voir le maximum de choses sur une journée, en fait, je suis allé louer un vélo, 12 euros la journée, c'était plus que la moitié de mon budget en fait.
Ah ouais. C'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est très pratique.
Et du coup, pour les 4 vélos, vous en avez eu pour combien, vous ?
50 euros, c'est raisonnable.
Plus la traversée, ça fait quand même... Là, ça fait un peu plus.
Ouais, avec le bateau, ça fait plus. Comment vous gérez en vacances? Est-ce que vous faites des petits plaisirs ou est-ce que justement on fait attention quand même?
On fait les deux. Comme on est logé, c'est assez facile de pouvoir se faire des petits plaisirs avec des bons moments. Et puis pour pas cher, ben, on amène son casse-croûte, on amène son eau et puis ensuite on fait une location et c'est pas trop cher.
Voilà, on a entendu Frédéric qui parle de casse-croûte. Hein.
J'ai bien remarqué, vous avez quand même pris le temps de manger ou pas?
Oui, bah écoutez, j'ai repris la route en sens inverse. Du coup, j'étais allé voir le phare de Penmen sur la côte sauvage. Et du coup, j'ai repris la route avec mes 6,90€ restants, direction Le Bourg. Et puis, je me suis retrouvé devant une petite boulangerie. 3,30€ le sandwich jambon fromage, bien généreux en plus. Et je suis allé m'installer à côté de Lou et d'Erwan en train de pique-niquer à côté de l'église.
Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là avec vous?
Un petit pâté macro mayo, c'est toujours bien. C'est notre spécialité, on mélange tout, on fait un peu tout et n'importe quoi.
Donc le but du jeu c'est quoi? C'est d'aller chercher une baguette à la boulangerie et après on achète des tomates, je vois qu'il y a du céleri aussi.
On fait tout à moindre coût et pour profiter plus.
Est-ce que vous avez des trucs de prévu cet après-midi?
Ah, on va marcher, on va jusqu'à Locmaria. Peut-être se louer un vélo à un moment mais...
C'est pas encore sûr.
Non.
Pas encore sûr. Bon, on espère que ce bon sandwich pâté, macro, maillot était très très bon. Et cet après-midi, Léonard, qu'est-ce que vous avez fait de beau?
C'était plage. Hein. Forcément, c'était plage avec celle des Sables Rouges. En plus, j'avais pas encore pris le temps de me baigner depuis mon arrivée sur l'île. Et d'ailleurs, c'est les pieds dans l'eau que j'ai croisé Karine.
On a l'impression d'être sur une île déserte où voilà, il n'y a rien, il n'y a que nous au monde. Même s'il y a quelques personnes par rapport aux plages bondées du sud. C'est notre belle Bretagne, elle est trop belle quoi. La semaine dernière, on était dans les îles Canaries et voilà, l'eau était aussi turquoise qu'ici, donc comme quoi, des fois, faire des kilomètres alors qu'on a ça à nos pieds, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion, on a ça à côté de chez nous.
Et du coup, vous allez revenir à Groix peut-être?
Oh bah certainement, je pense que ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra.
Oh bah oui, quel souvenir. Léonard Cassette, vous en aurez plein de petites photos à nous mettre sur les comptes de la radio, bien sûr, hein, pour vos stories, comme on dit. Alors, on fait les comptes quand même, c'est quoi? 1,10€ de café, c'est bien ça?
C'est ça, 12€ de vélo.
Ouais. Et après?
Et pour manger, 30 de sandwich pour manger.
Bah, il vous reste des sous.
C'est ça, il me reste encore 3,60€. Et je vous l'avais dit hier, j'ai pas encore goûté la bière de Groix. Ben voilà. Je compte bien finir ma journée avec un petit demi pour l'apéro, forcément.
Ben avec modération, comme toujours, Léonard Cassette. C'est bien d'avoir fait les comptes parce que dans un instant, juste après une courte pause, attention, la maîtresse d'école est avec nous. Et on va parler cahier de vacances. Merci encore, à tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Mercredi 10 août. Alors, si je compte bien sur mes petits doigts, il me reste 20 jours, tout pile, avant de reprendre mon cartable. Alors, vite, un petit tour vers mes cahiers de vacances. Ça y est, j'ai remis la main dessus pour me remettre doucement dans le bain. Et avec nous ce soir, Lisa Kamen, enseignante, maîtresse d'école et rédactrice au journal Le Point. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Christophe.
C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'y remettre?
Eh oui, enfin, maintenant ou jamais, il n'est jamais trop tard. Mais maintenant, c'est bien.
Mais c'est pas trop tard non plus.
Ah, c'est pas trop tard, c'est très bien parce qu'il reste 3 petites semaines. Les enseignants eux-mêmes commencent à se remettre dans l'humeur de travailler. Et non, c'est très bien, c'est parfait.
Dites-moi, maîtresse, ce qui m'inquiète aussi, c'est que c'est pas comme avant, ça a tout changé. Il y a plein d'écologie, plein d'environnement, mais c'est bien. Hein.
Oui, alors il y a des cahiers de vacances pour tous les goûts. Il y a des cahiers de vacances classiques et puis il y a des cahiers de vacances écolo. Il y a des cahiers de vacances pour les adultes. Il y a des cahiers de vacances qui sont faits uniquement à base de jeux. Il y a toutes sortes de cahiers de vacances. Mais ce qui fait fureur cette année, effectivement, ce sont les cahiers de vacances écolo. C'est comme des cahiers de vacances classiques. Hein. Ils ont à peu près le même look, on va dire. En général, on voit qu'ils sont sur du papier recyclé. Alors, c'est un peu paradoxal quand même, on est d'accord, hein, d'imprimer des cahiers de vacances tout en prônant l'écologie, parce que c'est du papier hein, qu'on a.
Oui, oui, mais bon.
Mais bon, voilà, ils sont sur papier recyclé et en gros, on déguise des exercices classiques en exercices écolo.
En ce moment, en plus, l'actualité est dramatique. On vient de le constater pendant tout le journal avec les feux. Est-ce que, par exemple, on parle de forêt? Est-ce qu'on parle de végétaux dans ces cahiers de vacances?
Oui, bien sûr. On parle beaucoup de développement durable. On parle beaucoup de recyclage. Donc, on parle de forêt. On parle beaucoup des pays étrangers avec les filières de production et de distribution aussi. Donc, oui, c'est aussi une manière d'ouvrir les enfants sur le reste du monde.
Est-ce que finalement, aujourd'hui, la meilleure façon d'apprendre pour vous, c'est tout simplement d'apprendre au jour le jour avec les parents?
Les cahiers de vacances, ça fonctionne si les enfants en ont envie. Il y a des enfants qui adorent ça. En général, les bons élèves adorent ça. Le problème, c'est de vouloir imposer ça à des enfants qui en ont marre de l'école, en fait, qui sont contents d'être en vacances. Donc, pour ces enfants-là, effectivement, il est difficile d'imposer des cahiers de vacances tous les jours et de les faire en entier. Il y a 1000 autres façons d'apprendre. On peut les emmener au musée. En général, c'est gratuit pour les petits. On peut leur faire faire un herbier. On peut regarder le ciel avec eux. Il y a des cartes du ciel gratuites sur les téléphones qui sont formidablement bien faites. On peut leur faire calculer des choses en faisant la cuisine avec eux. On peut faire 1000 autres choses que des cahiers de vacances. Hein. Il faut le faire avec des enfants qui en ont envie parce que pour les autres, c'est vraiment un pinceau.
Ouais, je me souviens, voilà, de temps en temps, quand je voulais prendre les enfants, quand on amène ça, les petits neveux et tout ça, la famille, par exemple au cinéma, je leur dis, si je vous paye une glace, les enfants, on va faire très simple. Voilà, j'ai 10€ et les glaces sont à 3,20€. Vous êtes 4, est-ce que je peux vous les payer ou non?
Là, ils calculent vite normalement.
Hein, ils calculent vite, mais pas sûr qu'ils aient toujours la réponse. Peut-être vous aussi.
Ils veulent leur glace, donc ils vont peut-être sous-estimer un peu le prix total, mais en général, ils calculent bien. Oui, quand il s'agit d'acheter des glaces, des bonbons, des choses comme ça, ça fonctionne bien.
Ouais, ça marche bien. Merci en tout cas, Lisa Kamen. Juste une dernière question. Il y a une grosse nouveauté à la rentrée pour tous ceux qui vont reprendre le chemin de l'école le premier?
On a un nouveau ministre, donc on attend des annonces. Il y a une circulaire qui est parue il y a quelques jours que les enseignants sont censés lire avant la rentrée. J'ai vu qu'il y avait un département qui allait donner des bracelets connectés 30 000 collégiens pour surveiller leur état de santé et leur consommation de sucre, etc. Oui, voilà.
Très bien.
Ça fait un peu bracelet de prisonnier quand même. Ils sont censés le porter pendant 4 ans.
Ah oui, 4 ans.
C'est le département de la Sarthe.
Lisa Kamen, professeur, on changera peut-être aussi nos habitudes un jour, mais on y reviendra parce qu'avec la canicule, la chaleur, peut-être qu'on ira un peu plus tôt à l'école à matin. Qui sait?
Allemands.
Comme les Allemands.
À 7h30 ou 8h du matin et on termine à 11h30. Parfait.
Fou. Merci Lisa Kamen et bel été à vous.
Merci Christophe.
RTL, les séries de l'été.
Et notre grande série de la semaine de l'été nous amène dans la ligne Maginot, à l'intérieur même. Nous vous proposons jusqu'à dimanche d'en redécouvrir le rôle et l'histoire de cet abri qui n'est pas, évidemment, qui ne s'est pas arrêté à l'invasion de 1940. Bonsoir à vous, Samuel Goldschmidt. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et tous.
On peut encore se dire bonjour, c'est vrai, Samuel. Troisième grand épisode sur l'armement, cette fois de haute technologie de la ligne.
La ligne Maginot, c'est un univers fascinant, intact 80 ans après, grâce aux associations qui ont restauré les ouvrages dans les moindres détails. Et ce sont des lieux d'abord faits pour combattre, tout en étant protégés, autonomes, invisibles et efficaces. C'est un champ de bataille préparé pour aboutir au tir en bout de chaîne. Tout commence dans le ventre des ouvrages, dans les stocks de munitions. Claude Poésy nous en explique le fonctionnement au Hackenberg.
Nous sommes ici dans le dépôt de munitions. On installe ici des systèmes de palans et de monorails qui vont permettre d'économiser de la main-d'œuvre. En 1930, je suis ici seul et je peux déplacer avec ce pan roulant et placer la caisse où je veux. On ne porte plus rien.
Entre les magasins et les blocs de combat, tout le transport se fait par train. Au combat, tout commence par l'observation. Comme il n'y a aucune vue directe vers le dehors, on fonctionne comme dans un gigantesque sous-marin.
On n'ouvre jamais un créneau pour regarder dehors. Hein. On va toujours utiliser un épiscope ou un périscope et on va se servir des points de repère naturels pour savoir exactement où orienter nos tirs.
Au bout de la chaîne, ce sont les redoutables tourelles qui vont se mettre en batterie. Ce sont des monstres de mécanique de 160 à 200 tonnes et de 12 mètres de haut.
Et Samuel, ces tourelles, on peut les voir en fonctionnement encore aujourd'hui ?
Évidemment. Alors les canons sont démilitarisés, ils ne tirent pas, mais c'est une de ces tourelles éclipsables que Claude Poésy va mettre en route pour nous au Hackenberg.
Face à nous, on a une tourelle d'artillerie de 135 mm qui est composée de 3 étages et qui pèse plus de 160 tonnes. Tourelle à éclipse, alors c'est comme une tortue qui a rentré sa tête et ses pattes. On ne voit rien à part sa cuirasse. Alors on voit la tourelle qui se met en position batterie qui vient de s'élever d'à peu près 60 cm. Les bouches à feu viennent d'apparaître à l'extérieur et on va pouvoir maintenant la placer sur les coordonnées qui nous ont été dictées. Elle tourne sur 360 degrés. Vous avez ici une règle de tir. Voilà, nous sommes actuellement sur le gisement 1200 et on se positionne sur la position de tir 3200. Ensuite, on va mettre en route donc les Norea pour emmener les munitions vers l'étage. De chaque côté, ascenseur à obus. Une fois que les obus sont arrivés dans la chambre de tir, on n'a plus qu'à donner l'ordre de tir par ce petit transmetteur d'ordre. Les bouches à feu vont se mettre à faire feu et toutes les 10 secondes, on va avoir deux tubes de 135 qui vont donc laisser partir leur tir et comme ça, on va donner des salves de 20, 30, 40, 50 coups. Et à la fin de ces salves, on va donner l'ordre à la tourelle de reprendre sa position éclipse. On n'attend pas la riposte ennemie. On remet la tourelle sous terre, on abrite de nouveau notre tête de la tortue.
Le tir va très vite, démonstration avec Marc Alter.
Dans la tourelle elle-même, il y avait 4 soldats. Les soldats, c'est très mécanique, il y en a un qui ouvre la culasse. L'autre prend de la noria la cartouche, qu'on appelle l'obus aussi. Il l'introduit dans la culasse, on ferme. On percute le coup, l'obus part et en ouvrant, la douille vide est éjectée.
Michel Trutman a recueilli des témoignages directs de l'efficacité du système Maginot.
Quand je disais qu'on était capable de tuer un lièvre à la course, les artilleurs de la ligne Maginot que j'ai connus, comme le lieutenant Penneceau, ont été catégoriques. Ils savaient exactement où tirer avec leur canon. C'était une précision diabolique.
Pendant toutes les opérations, les hommes sont invisibles de l'envahisseur, à l'abri dans leur carapace de béton et d'acier. Ils doivent être dans les meilleures conditions pour tenir leur siège. Et pour cela, tout est prévu. Ce sera l'objet du prochain épisode.
On a hâte. Série de Samuel Goldschmidt et Boris Pierredu pour la mise en onde. Cette série passionnante est à retrouver, bien sûr, sur votre application préférée, sur RTL.fr. Dans un instant, ils sont là, en pleine forme. Toute l'équipe de Laissez-vous tenter, là, avec Stéphane Boutsock, Laurent Marsic et Monique Younes. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL.
Laissez-vous tenter de l'été.
J'adore ce moment juste avant 19h. C'est les vacances, bien sûr. Laissez-vous tenter de l'été là et bien là. Avec nous ce soir, Monique Younes.
Bonsoir. Bonsoir.
Et les garçons, Stéphane Boutsock et Laurent Marsic. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir.
Ah, je suis ravi de vous avoir avec nous. On va commencer par le cinéma, le 7e art. Stéphane, vous nous proposez ce soir une belle balade à la campagne, tout en parlant de cinéma, bien sûr. Vous êtes allé nous rendre une petite visite à une des grandes spécialistes d'animaux sur ce grand écran. C'est bien ça, hein ?
Oui, elle s'appelle Muriel Beck et vous avez déjà vu le résultat de son travail dans des films comme Belle et Sébastien, Sur la piste du marsupilami, Rush Hour 3, La famille Bélier, Superchondriaque, Indigène, mais aussi des séries, des pubs, bref, 15 ans d'expertise. Elle est vraiment connue, reconnue dans le métier. Dernier film en date, c'était en décembre dernier, ça s'appelait Mystère de Denis Imbert.
Mystère, mystère. Alors j'imagine que Muriel Beck a un vaste domaine pour élever et garder tous ses animaux.
Direction Surie au bois dans le Loiret. On entend bien les feuilles des bois. Oui. Nous sommes dans une des forêts de ce domaine d'une vingtaine d'hectares, ponctuée de quelques mares et étangs. Bienvenue à Terre Animale, le refuge de Muriel Beck et de son Arche de Noé.
Alors ici, nous accueillons un peu plus de 200 pensionnaires, sauvages et domestiques. Il y a 3 meutes de loups. Des panthères, biches, sangliers, chiens, chats et même un éléphant. Et tous les animaux ici tournent et ont un jour joué dans un film.
Alors je peux vous dire que ce jour-là, à ce moment-là, il y avait un cerf sublime dont les bois immenses ornent la tête. Il était juste à côté de moi et celui-là, vous l'avez vu notamment dans l'école buissonnière de Nicolas Vanier en 2017.
Mais oui, ça y est, je m'en souviens Stéphane. Vous avez donc demandé à Muriel Beck si l'on pouvait dresser n'importe quel animal pour les besoins du ciné, c'est ça?
J'aime pas du tout ce terme de dressage parce qu'il est réellement adapté à basiquement les animaux domestiques. On peut en parler aussi pour les animaux sauvages, mais ça implique réellement l'apprentissage d'une action vraiment donnée. Or, un animal acteur pour le cinéma, on va lui demander de jouer son propre rôle. Donc la particularité de mon métier, ça consiste à les accompagner, surtout les animaux sauvages, à leur donner envie d'avoir envie, puisque je ne fais que en accord avec eux. Et pour qu'ils soient beaux à l'image, il faut qu'ils soient en confiance par rapport à tout un ensemble qui est un peu contre nature, puisque que ce soit des caméras, une équipe technique, on se retrouve dans des process qui sont basiquement à l'encontre du confort d'un animal sauvage qui lui tend à être discret et à éviter l'homme.
Eh ben tiens, prenez les loups que l'on voit dans le film Mystère. Ce jour-là, dans le bois de Terre Animale, ils étaient 4 à tourner autour de nous, en compagnie notamment de Shana Kale, qui est la jeune comédienne de l'histoire.
Ils sont arrivés tout petits, ils avaient 11 jours. Ils ont été effectivement élevés au contact de l'homme. Mon travail consistait à faire accepter cet enfant qui est Shana. Et le défi, c'était de faire en sorte qu'elle puisse tourner avec eux un an plus tard, puisqu'on a tourné ce film sur une période très longue. On commence, ils ont 2 mois et on termine, ils ont 1 an.
Alors je peux vous dire qu'on les entend arriver de loin. Alors il n'y a rien d'agressif dans ces cris, mais chaque bestiau fait quand même dans les 60 kilos. Et même habitué à l'homme, on ne fait pas le fier quand ils arrivent, d'autant que ces loups viennent renifler absolument tout ce que vous trimballez. C'était le cas pour ma sacoche et mon micro ce jour-là.
Ah oui, ah ben Monique Yonès, elle est toujours impressionnée. Laurent Marsic, lui, en sourit, c'est fou.
Oui, 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 on s'en fout.
En tout cas, impossible de parler des animaux ce soir sans évoquer, on redevient très sérieux, la nouvelle réglementation sur les maltraitances animales. C'est une loi qui a été votée cet automne et qui interdit, par exemple, d'ici à 7 ans, la présence d'animaux sauvages au cinéma.
Muriel Beck elle-même a été entendue par la commission parlementaire qui a planché sur le texte. Elle est directement concernée et va lutter pour que les débats s'apaisent, que chacun, en fait, regarde les choses en face.
Certes, ils sont en captivité, mais ils sont nés en captivité, donc ça, c'est leur destin. Et après, la captivité peut être bien accompagnée, bien vécue. Donc, je vois pas pourquoi les animaux en captivité seraient forcément des animaux maltraités. Il faut juste trouver le bon équilibre.
Un équilibre qui semble régner dans ce domaine où l'animal et l'homme cohabitent, jouent, travaillent. J'ai demandé pour finir à Muriel Beck de nous présenter son pensionnaire le plus âgé.
C'est l'éléphant, qui est une jeune fille qui a 37 ans.
Elle s'appelle Baby, l'éléphante de Terre Animale, qui vous attend à Sury au Bois, dans le Loiret. Le domaine se visite, il faut évidemment réserver. Les activités avec les loups ou les faucons, les tarifs, ça va de 60 à 80 euros pour les enfants, de 120 à 140 euros pour les adultes. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail de Muriel Beck au cinéma, notez qu'elle vient de sortir un bouquin passionnant, ça s'appelle Animal, et c'est aux éditions Kairou.
Parfait, merci Stéphane Boutsock. Le premier d'entre vous ce soir, après le cinéma et avant les expos de Madame Younes,
yes,
la télévision ce soir, Laurent Marsic. Alors là, ce soir, c'est gala, c'est émotion en série, c'est la grande finale de Pékin Express.
Duo de choc sur M6, et quelle finale! Petit rappel, on a vécu la semaine dernière l'élimination un peu dans la douleur du duo Valérie Trier-Véler et sa meilleure amie Karine Fournier. Ouais. Reste donc en lice ce soir pour la grande finale l'humoriste Inès Reg et sa sœur Anaïs face à la Miss France Rachel Legrain Trapani, je vais y arriver, et son bouillonnant compagnon Valentin. Dès le départ, le ton est donné avec une série de courses intermédiaires qui leur permettront d'avoir du temps supplémentaire pour le sprint final. Une première course sous pression, un candidat masqué, l'autre pour le guider. Le but, conduire un tuk-tuk entre des plots et des pneus. Au fil du parcours, les équipes doivent récupérer des clés dans des boîtes un peu particulières. Il y a des trucs bizarres dedans, vous verrez. Il y a celle qui kiffe l'idée dès le départ de l'épreuve, ce sont Inès Reg et sa sœur.
Ma sœur est ravie. La conduite, c'est complètement mon truc. Je suis une pilote. Moi, j'ai eu mon permis à 18 ans en faisant seulement 14 heures de conduite. 14, genre, c'est incroyable, les gars, d'accord? Trop bien, c'est pour nous, ça y est.
Et puis, il y a ceux qui se sont fait une promesse. Promesse de zénitude côté Miss France et son sanguin chéri Valentin.
C'est de ne surtout pas s'énerver. Donc, on essaie de garder la tête froide.
C'est bien. Encore un peu à gauche, encore un peu à gauche.
Ça démarre tranquille, ils sont zen.
Oui.
Et 10 secondes plus tard.
Non, mais ça sert à rien, on va s'arrêter à tous les plots.
Tout le monde s'arrête.
Là, je comprends pas.
Arrête de parler comme ça.
Mais tu m'énerves,
je fatigue, là.
C'est toi qui m'énerves. Tu as arrêté de me parler mal, en fait.
Le naturel revient assez vite au galop.
Bah, j'ai l'impression de vous voir tous les deux, c'est pour ça.
N'oublions quand même jamais une chose, c'est la pression du jeu, comme le rappelle Stéphane Rothenberg.
Ils sont compétiteurs. On sait que c'est compliqué de jouer en compétiteur parce qu'ils sont mauvais joueurs d'instinct. Après. La relativisation reprend le dessus, si on a de la chance, quelques heures après.
Voilà, vous verrez ce soir que rien n'est écrit, tout est possible. J'ai beaucoup aimé cette finale de Pékin Express, M6, 21h.
Alors, je viens de laisser un petit texto à Stéphane Rothenberg et je vais préciser que Laurent Marsic et Monique Younes feraient couple l'an prochain dans Paris-Pékin. On va se régaler. Et pour se détendre quand même après ça, tiens, en une belle série, vous nous proposez une série qui vient de débarquer sur Netflix. On donne son nom, ça s'appelle Sandman.
Oui, le marchand de sable en français, c'est une série fantastique et graphiquement très réussie. L'histoire est celle du seigneur des rêves, Morpheus. Il dirige le monde des rêves et des cauchemars. Mais un jour, il est emprisonné par erreur par un mage terrien qui est en quête d'immortalité et qui pensait, lui, capturer la mort. Il s'est gouré.
À quoi bon un dieu qui gouverne les rêves?
Pas un dieu. Il est bien plus qu'un dieu. Et les hommes ne sont-ils pas gouvernés par leurs rêves?
Morpheus va ainsi passer près d'un siècle en captivité avant de réussir à s'échapper, de retour dans un monde où il découvre que tout a changé, son monde à lui, les hommes ne rêvent plus, enfin, bref, c'est le bazar. Sandman, c'est d'abord une série de romans graphiques signés Neil Gaiman, qui est aussi à l'écriture des scénarios de cette série télé. On est d'accord, Monique, hein, ça fait partie des œuvres fondatrices de la bande dessinée américaine qu'on appelle les comics. Et Neil Gaiman a adapté son œuvre quasiment chapitre par chapitre. Attention, c'est interdit au moins de 18 ans parce qu'il y a quand même quelques scènes un peu gore. Et c'est donc à voir sur Netflix.
Et si vous voulez les lire en bande dessinée, c'est chez Delcourt.
Voilà, voilà, ça c'est intéressant. On en parle avec la maîtresse d'école, il faut apprendre tout le temps,
tout
en permanence.
Le temps, tout le temps.
Oh là là, j'ai envie, je sais pas, d'un petit détour par Nice avec vous, Monique, c'est possible?
Ah,
Monique
là là.
Younes,
on
avec
va,
pas moins, attention, de 11 expositions.
11 expositions dans 11 musées de la ville. Mais oui,
incroyable.
Les fleurs. Regardez, je suis venue toute fleurie aujourd'hui. Et c'est notre ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui a eu l'idée de décliner le thème des fleurs pour la Biennale des Arts de Nice. Parce que Nice, vous le savez, était en effet, au début du XVIIIe siècle, jusque dans les années 30, la capitale des fleurs. Et pour s'en convaincre, il suffit d'écouter l'hymne national de la ville, m'a dit le directeur du musée Masséna, Jean-Pierre Barbero.
Hola, mio bella Nisa, regina degli fiori.
Reine des fleurs. Pourquoi reine des fleurs? Parce que Nice a été un grand jardin et lorsque les Anglais, en 1785, Tobias Molette arrive, il voit quoi? Un territoire rempli de plantes qui sont des plantes endémiques. D'ailleurs, lorsque vous regardez les villas, c'est toujours orienté, pas vers la mer, vers le nord, vers les collines.
Et au musée, ah là là, et au musée Masséna, qui dirige, donc vous connaissez le musée Masséna, donc
bah quand même, puis Nissa Labella derrière nous, il y a Monique Labella plus Nissa.
Et donc au musée Masséna que dirige Jean-Pierre Barbero, vous allez découvrir, grâce à quelques 200 œuvres, des affiches, des tableaux, du mobilier, des décors muraux, de la faïence, mais aussi de sublimes costumes de carnaval. Ce qui vous font découvrir combien Nice était reine des fleurs, c'est le titre des expositions. C'est d'ailleurs l'abondance de jardins d'œillets, de violettes, de roses, de narcisses, d'anémones, de jacinthes dans la ville qui a poussé les architectes à reproduire des décors fleuris sur les pilastres et les trumeaux des bâtiments niçois. Il suffit de lever la tête à la sortie du musée Masséna pour s'en apercevoir.
Quelle autre exposition a lieu en ce moment? Je crois qu'il y en a une très très belle dans le beau musée d'Arnaïf à Nice, c'est ça?
Les fleurs du mal.
Du mal?
Le mal.
Baudelaire ou...
Accent circonflexe. Ah. Mal, parce que de nombreuses sont les fleurs qui suggèrent l'organe sexuel ou la reproduction, monsieur. Hein?
Bien, madame.
Mais si l'envie vous prend de devenir fleur, oui, il faut aller au MAMAC, le musée d'art moderne et contemporain de Nice, vous inspirer des artistes qui ont réussi l'expérience.
Le musée niçois qui est couvert d'éloges et même de fleurs un peu partout, c'est le fameux musée Matisse.
Ah bah alors, plus de 1200 visiteurs par jour, c'est énorme. Ouais. Pour l'exposition Henri Matisse, David Hockney, Le paradis retrouvé, c'est un triomphe tellement mérité. Vous connaissez certainement la fascination qu'avait Henri Matisse pour les jardins luxuriants et la végétation abondante.
Ah, c'est super, parce que Matisse, on le sait, hein, vivait entouré de fleurs.
Bah, il passait des heures c'est à ça, les hein observer. Mmh. Hein. Il les a peintes, il les a découpées. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Un autre fou de fleurs marche aujourd'hui sur ses pas. C'est le peintre anglais David Hockney, qui a aujourd'hui 84 ans et qui est devenu, à la faveur d'une vente aux enchères historique, le peintre vivant le plus cher au monde.
Mais où vit Hockney d'ailleurs aujourd'hui?
Ben, en Normandie.
Ah oui, c'est ça. Hein.
Vous savez, dans une maison dotée d'un immense jardin, il dédie son art à travers ses deux passions favorites. Il y a les fleurs et les nouvelles technologies numériques. Et il peint depuis plusieurs années directement sur iPad. Il appelle ses bouquets de fleurs les Fresh Flowers. Et elles sont exposées pour la première fois au musée Matisse, aux côtés des chefs-d'œuvre de Matisse, ce qui pouvait sembler audacieux. Eh bien, l'audace a payé, en grande partie grâce à la vigilance, Émeric Jeudy, qui est du musée national de Nice.
Quand on est dans la grande galerie où on voit les 20 fresh flowers alignés, il manque plus que l'odorat pour que le visiteur soit lui-même baigné en fait dans cet océan de fleurs. Matisse comme Hockney sont deux artistes qui ont été passionnés par les technologies de leur temps. Et David Hockney lui-même raconte comment, quand l'iPad est apparu, il s'en est saisi et il dit de façon très drôle que Matisse aurait fait la même chose si Matisse avait eu accès à un iPad. Hockney a lui-même imprimé ses fresh flowers et encadré dans des cadres anciens. Et c'est ce jeu-là qui est très beau.
C'est magnifique. Super, non mais vraiment, c'est une exposition sublimissime. Matisse Hockney, et qui rend miraculeusement hommage tant à Henri Matisse qu'à David Hockney. Et vous verrez que ce ne sont pas seulement les fleurs qui rassemblent ces deux immenses peintres. Promettez-moi d'aller voir Le paradis retrouvé de Matisse et Hockney.
Tous les week-ends.
Mais voilà, au musée Matisse, jusqu'au 18 septembre. Après, ça sera l'automne, ça sera fini.
Ah oui, mais c'est tellement beau, Nice, vous savez.
Mais je sais.
On n'est pas allé sur le cours Soleil, hein, le marché aux fleurs, m'en parlez pas. C'est pas une expo.
Enfin, c'est pas une expo, mais les fleurs sont partout.
Mais alors, attendez, je prends congé quoi. Dimanche, lundi, je reviens mardi. Vous voulez, je peux remonter les petites fleurs niçoises.
Ben oui.
Venir dans l'avion.
Déjà sainte.
Ah, c'est la période.
Je sais pas.
Qu'est-ce on a parlé de Nice, Laurent Marsic. Je pense à Steven Bellery dans toute l'équipe, Anthony Martin, quoi. Mais quand on parle de Nice,
oui.
Qu'est-ce qu'on chante à Nice? Issa, Nissa.
Et
autrement.
Tu t'avais connu la piste et les anges à moitié nus.
Ils se mettent des anges, mes enfants.
Ben oui.
D'accord.
Décrivez, je l'ai regretté.
Ah, ben là.
Quelle chanson, quoi. Ah, mon copain Laurent Gérard adore ça. Il imite très très bien.
Dick Rivers.
Ah, il le fait merveilleux. Il fait faire un pont pour le bon. J'adore. Salut Laurent qui reviendra à la rentrée avec d'humoristes sur l'antenne d'RTL. J'ai pas trop dévoilé. Il y aura beaucoup de monde. Il y aura
énorme, Philippe Cadrivière, énorme. Il y aura,
voilà, la bande, Cyprien Sini, ses chroniques, il y aura tout ça. Monique Younes, salut Stéphane Boutsock. Ferme la porte, Stéphane, si tu veux. Et Laurent Marsic, à demain pour le plateau télé. Dans une minute.
À demain.
La météo.
RTL Soir.
Anthony Kazmarek, le retour pour la météo, cette chaleur qui s'intensifie sur tout le pays.
Oui, avec 18 départements de l'Ouest en vigilance orange canicule de la façade atlantique jusqu'à la plaine toulousaine. Demain, la minimale pour Cherbourg avec 28 degrés, la maximale pour Mont-de-Marsan 41 degrés, 40 à Bordeaux, 37 à Toulouse et Limoges, 34 à Paris et Brest, 30 à Nice, toujours du soleil et quelques orages à nouveau en fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse. Et attention, ces orages pourraient s'avérer violents et toujours ce vent qui soufflera sur tout le pays à 40 km/h en rafale.